qu'on pourrait. Fanfan, il nous reste une minute. Attends, qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, alors une minute, là il est 13h59, t'as une minute pour dire un mot d'admiration pour Claude Lemel. Une minute, là c'est vraiment... Allez.
J'en ai beaucoup dit dans la première heure.
Oui.
Je vais simplement rajouter que sans Chantal Grimm, puis Claude Lemel, et aussi désormais Ignatius, je ne serais pas devenue chanteuse, qui était le rêve de ma vie d'enfant et que l'enseignement m'a empêché de réaliser plus tôt. Donc je peux dire que je les porte tous les trois dans mon cœur jusqu'à la fin.
Merci beaucoup Fanfan et merci à Jean Peduzzi, notre auditeur qui est devenu un ami depuis 20 ans et il nous écoute depuis 30 ans, qui a été présent, qui a été très silencieux et pour qui on est beaucoup à avoir une très grande amitié. Merci à Claude Lemel et surtout merci à Ariel qui a jonglé encore.
Merci Ariel.
Et ça, il est 14h pile poil, c'est super, il y a Radio Cartable qui arrive. Je vous dis au mois prochain, 2 heures autour de Nilda Fernandez, avec un très beau programme. À bientôt.
Merci Laurent pour cette transition. C'est toujours un grand plaisir d'arriver avec un peu de guitare live. Et c'est donc l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry sur Radio Libertaire 89.4. Et aujourd'hui, nous allons écouter des rediffusions. Il s'agira de travailler sur l'actualité. Et la rediffusion de l'actualité, ça veut dire des sujets traités dans le passé par plusieurs écoles. L'école Maurice Thorez, l'école Langevin, l'école Rosaline Franklin. Vous verrez que les sujets sont quand même en écho de l'actualité. Il y a en particulier la course Ella 1-2-3 cours et volée qui a lieu aujourd'hui pour beaucoup d'écoliers, qui était traité en 2022. Il y a les attentats du 7 octobre 2023 et leurs conséquences qui étaient traitées à l'époque par les écoliers de Rosaline Franklin. Et bien d'autres sujets, en particulier autour du réchauffement climatique. Je vous laisse découvrir le programme. Bonne écoute.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Voici les actualités d'ici et d'ailleurs. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Cartable? Il est 14h08 et vous avez rendez-vous avec l'actu.
Actualité d'ici et d'ailleurs.
Voici venue l'heure
des actualités d'ici et d'ailleurs.
Nous sommes les CM2A
de l'école Maurice Thorez B.
Notre maîtresse est Adrienne Mézrette.
Et cette semaine,
nous ne sommes plus tout à fait des élèves.
Enfin, si, mais nous sommes aussi des journalistes.
Autour de la table, pour vous présenter notre sujet du jour, il y a...
Ruth Anaïs, salut tout le monde.
Théo, coucou.
Boris, bonjour.
Et enfin moi, Lina. Bonjour à tous.
Cette semaine, nous avons choisi
un sujet d'actualité brûlante.
Nous allons vous parler de la grève.
Depuis le 19e siècle, la grève est une action collective qui consiste pour les salariés d'une entreprise ou les agents du secteur public à cesser le travail.
En effet, Théo, cette action consiste à faire pression sur les employeurs afin de voir les revendications aboutir.
Le gréviste n'est pas payé. Et l'entreprise ne produit plus pendant son absence. On n'offre plus le service qu'elle est supposée proposer.
Nous allons voir si les choses sont aussi claires
pour nos camarades dans la cour de récréation.
Que savent-ils de la grève?
Et qu'est-ce qu'ils en pensent, eux?
C'est parti pour notre reportage.
Est-ce que vous pouvez parler à votre question?
Bonjour Gilles, c'est quoi la grève?
Oui, je sais, c'est quand il y a des personnes dans un métier qui travaillent pas parce qu'ils sont pas d'accord avec quelque chose.
Avec quoi par exemple?
Je sais pas.
Si tu devais faire grève, tu ferais grève pourquoi?
Je ferais grève pour avoir le droit d'utiliser mon téléphone au collège.
D'accord, merci Jules.
Bonjour Shaima, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la grève? C'est quand on ne travaille pas?
Oui.
Est-ce que tu sais les travailleurs qui font grève ne sont pas payés?
Bah oui.
Pourquoi décide-t-on de cesser le travail?
Pour prouver des fois qu'ils existent, pour défendre leur intérêt.
Bonjour Anna Francisca, est-ce que tu sais ce que c'est la grève?
Pas vraiment.
La grève, c'est quand on est contre une loi du travail et qu'on ne va pas au travail du coup. Pour protester contre cette loi, est-ce que tu soutiens la grève?
Pas vraiment.
Pourquoi?
Bah, parce qu'après, les adultes ne sont pas payés.
Si tu devais faire une grève pour quelque chose, ça serait pourquoi?
Si par exemple je suis pas d'accord avec une chose,
je ferai grève car on travaille trop.
Parce qu'on n'a pas assez de fêtes à l'école. On fait pas beaucoup de kermesses ou de jeux.
Pour voir ma famille?
Pour voir mes grands-parents?
Pour aller chez mon tonton?
Si je devrais faire grève, c'est pour quand Laura la queue de la cantine sera moins longue.
Pour aller au cinéma?
Pour avoir plus de fast food dans les villes.
Et ben voilà, la cloche retentit.
C'est donc la fin de notre micro-couloir.
À bientôt!
En ce moment,
le pays est agité par de nombreuses manifestations dans la rue.
Nous avons voulu comprendre
comment et pourquoi
certains travailleurs décident de lutter pour leurs droits.
Et si on s'interrogeait maintenant sur le mot grève?
Cher Boris, le mot grève vient du nom de la place de la Grève à Paris. Au Moyen-Âge, ceux qui n'avaient pas d'emploi venaient y chercher du travail. Être en grève, c'est donc se tenir sur la place de la Grève et attendre du travail.
Ah oui, tu m'apprends quelque chose.
Dans certains pays, la grève est purement et simplement interdite. C'est le cas des dictatures.
Un petit peu d'histoire maintenant. Les plus anciens mouvements de travailleurs, dont l'histoire a gardé la trace, ont lieu en Égypte. Vers 2558 avant Jésus-Christ, les ouvriers se mettent en grève suite à la diminution puis la suppression de l'ail dans les rations quotidiennes.
La suppression de l'ail, Théo ?
Oui, de l'ail, qui était un produit de luxe, enfin trop cher pour les ouvriers.
L'histoire de France est jalonnée de grands mouvement de grève, celle du Front populaire en 1936,
qui a abouti au congé payé,
celle de mai 68,
ou encore de l'hiver 95.
La grève de 1936 nous permet aujourd'hui d'avoir des congés payés.
Ah bon? Parce qu'avant ça n'existait pas.
Eh bien non, Ruth Anaïs. Les travailleurs qui voulaient prendre une pause devaient prendre un congé sans solde, c'est-à-dire sans être payés.
Mais revenons à aujourd'hui.
On parle beaucoup de grève en ce moment.
Et notamment de la grève des cheminots.
C'est quoi la grève des cheminots, Lina?
Les cheminots, ce sont les personnes du rail. Ceux qui travaillent à la SNCF, à bord des trains, ou bien à l'aiguillage de ceux-ci. Et leur statut est remis en cause, Boris, par le gouvernement actuel. La suppression du statut du cheminot, qui octroie plusieurs avantages,
est évoquée par le gouvernement. Les cheminots ont donc décidé de planifier 36 jours de grève à partir de mardi dernier.
Leur objectif, perturber le trafic afin de faire pression sur le gouvernement pour conserver leur statut et la qualité des services proposés par la SNCF.
Tout cela est plus clair pour vous ?
Nous l'espérons.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Nous sommes les CM2 de la classe de CM1-CM2 de Maurice Torres B.
Bonjour et bienvenue dans les actualités d'ici et d'ailleurs pour un point sur les informations locales, nationales et mondiales.
Pour commencer, quelques informations ivriennes.
Une découverte exceptionnelle a eu lieu dans notre ville. Des archéologues de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique et Préventive, effectuait des fouilles dans le quartier d'Ivry-Confluence. Ils ont alors mis à jour deux tombes.
Mais pas n'importe lesquelles.
Dans la première tombe, il y avait le squelette d'une femme allongée sur le dos avec au poignet un bracelet en bronze. À côté d'elle se trouvaient deux céramiques. Cette sépulture daterait de la fin de l'époque gauloise, juste avant la conquête de la Gaule par l'empereur Jules César en -52 avant Jésus-Christ.
Dans la seconde tombe se trouvait le squelette d'un homme. Pour l'instant, les spécialistes ne savent pas de quand il date. Ils vont avoir besoin de faire des recherches approfondies dans leur laboratoire. Les archéologues ont également découvert des vestiges d'habitations construites à l'aide de mottes de terre. Ces découvertes sont vraiment incroyables et rares en Île-de-France. Nous avons hâte de voir tout ce que les archéologues pourront nous apprendre grâce à elles.
Toujours à Ivry, a lieu cette semaine la course 1-2-3 courez-voler.
Comme chaque année, l'USEP Val-de-Marne, c'est-à-dire l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, organise dans plusieurs communes du département une course pour soutenir l'association ELA.
À Ivry, de très nombreuses classes participent. Élèves, enseignants et parents courent pendant une heure sur un circuit de 400 mètres au stade Clairville.
Les distances parcourues par chacune et chacun sont additionnées pour réaliser un exploit collectif.
Chaque kilomètre compte. L'USEP versera 1 centime d'euro par kilomètre parcouru à l'association ELA.
Mais qu'est-ce qu'ELA ?
ELA est une association qui lutte contre les leucodystrophies, des maladies génétiques qui affectent le système nerveux.
Depuis 1994, l'association invite tous les établissements scolaires du primaire jusqu'au supérieur à se mobiliser à travers cette course.
La campagne est également parrainée par l'Éducation nationale.
1, 2, 3, courir, voler est un engagement solidaire et un exploit sportif. Alors comme le dit la chanson, toi aussi mets tes baskets et cours pour ELA.
Thank you.
Passons maintenant à des informations mondiales.
Il y a quelques jours, deux événements dramatiques ont eu lieu en Libye et au Maroc.
Débutons par la situation au Maroc, où un puissant tremblement de terre a frappé la région de Marrakech dans la nuit du 8 au 9 septembre.
Il y a régulièrement des séismes au Maroc, comme celui à Agadir en 1960, ou plus récemment celui d'Al-Hoceima en 2004. En effet, le pays se situe à proximité des plaques africaines et eurasiennes sur une faille.
Cette fois-ci, l'épicentre, c'est-à-dire le point où le séisme a été le plus intense, ne se situait pas dans la zone la plus active du pays, mais dans la province d'Al-Houz, à environ 70 km au sud-ouest de Marrakech.
La première secousse a eu lieu à 23h11, heure locale. Elle était d'une magnitude de 6,9 et elle a été suivie par une deuxième réplique de magnitude 4,9 environ 20 minutes plus tard. La magnitude de 6,9 en fait le deuxième séisme le plus important de l'histoire du pays après celui de Meknès en 1755.
Le bilan humain s'élève à plus de 3000 morts et plus de 6000 blessés. Il a également causé de très importants dégâts matériels, détruisant habitations et infrastructures. Des villages entiers sont détruits, les routes sont bloquées.
À Marrakech, des parties anciennes de la ville ainsi qu'une partie des remparts de la vieille ville sont effondrés. Plusieurs bâtiments anciens de la Médina, des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, sont détruits. Au total, on estime que plus de 50 000 habitations ont été détruites.
Environ 100 000 enfants ont été affectés par le séisme. Selon le ministère de l'Éducation, environ 530 écoles et 55 internats ont été endommagés.
Du côté de la Libye maintenant, dimanche 10 septembre, le passage de la tempête Daniel dans l'est de la Libye, un pays du Maghreb, a provoqué des inondations dévastatrices et meurtrières.
Les pluies torrentielles ont provoqué des crues dans plusieurs villes.
Par exemple, la ville d'Al-Baïda a reçu 414,1 mm de pluie en une seule journée. Un nouveau record pour le pays.
Les pluies ont causé l'effondrement de deux barrages près de la ville de Derna. Une véritable catastrophe. La ville a été engloutie par les flots et des quartiers entiers ont été emportés.
Les bâtiments, les voitures, les infrastructures ont été arrachés par le courant.
Plus de 3800 morts et plus de 10 000 disparus sont à déplorer. Et le bilan ne cesse de s'alourdir au fur et à mesure des recherches.
Plus de 43 000 personnes ont également été déplacées.
Dans les deux pays, la Libye comme le Maroc, les recherches se poursuivent pour retrouver des corps ou des survivants et les équipes de secours ne cessent de travailler. Des pays du monde entier envoient l'aide qu'ils peuvent pour les aider. Cependant, la reconstruction sera extrêmement difficile et très longue. Il faudra beaucoup de courage aux populations pour s'en remettre et toutes nos pensées les accompagnent. Ces catastrophes nous amènent à réfléchir sur la gestion des risques naturels et sur l'état de notre planète.
C'est la fin de nos actualités.
Retrouvez-nous très bientôt pour de nouvelles informations.
Je m'appelle Noam.
Et moi, Camille, nous sommes les élèves de la classe de CE1A.
Bonjour, je m'appelle Jaélie.
Et moi, Mélina, nous avons 7 ans.
Bonjour, je m'appelle Ritej.
Et moi, Mohamed Ali, nous sommes à l'école Rosaline Franklin.
Bonjour, je m'appelle Amir.
Et moi, Lucas. Nous vivons à Ivry-sur-Seine.
Voici notre revue de presse du mois d'octobre.
Notre premier journal du mois part de l'IA.
Ça veut dire intelligence artificielle.
L'IA, c'est des robots qui se contrôlent tout seuls et se comportent comme des humains.
C'est très pratique, on l'utilise dans la vie de tous les jours, dans les hôpitaux, au cinéma, de plus en plus.
Mais il faut faire très attention car on peut créer des fausses informations comme la vidéo de Mbappé qui se fait tirer les oreilles alors que ça n'est jamais arrivé.
Ça, c'est nul!
La une du 6 au 12 octobre 2023 est santé mentale. On est tous concernés.
La santé mentale, c'est la santé du cerveau.
Un jour, une actu nous informe que pour aller bien, il faut être en forme dans son corps, mais aussi dans sa tête.
C'est vrai pour les enfants et les adultes.
En octobre, que s'est-il passé en Israël ?
Les Israéliens et Palestiniens sont en conflit depuis très longtemps.
Certains Palestiniens ont attaqué Israël qui a immédiatement riposté.
Et ils sont maintenant en guerre.
Pour finir, le 13 octobre, les États-Unis ont envoyé une sonde spatiale pour étudier l'astéroïde Psyché.
C'est un énorme caillou. Il se trouve entre Mars et Jupiter.
Il contient du fer et des métaux précieux comme de l'or, donc il ressemblerait au noyau de notre planète.
La sonde arrivera sur place dans 6 ans.
Actualité!
D'ici
et d'ailleurs.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un mois pour la revue du mois de novembre.
Et si
avait une robe de lumière. Tout le monde sait sur la visite. Et qui sait ce que l'on va faire. Tout le monde s'amusait, c'était chic. La méchante sorcière a tout cassé. Tout le monde était triste. Au moins, ça l'a fait passer. Un grand merci à l'artiste.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et vous venez d'entendre Dans la mer bleue, un titre de Pascal Loquin réalisé avec les enfants de l'école Frères Voisins. L'album s'appelle Animaux on the Rock.
En CM2B, nous avons élu nos délégués lundi. C'est Adèle et Kobli. Et les suppléants sont Swell et Fatoumata. Et vous, Sarah ?
Pour notre classe, Lilia et Wakil ont été élus. Et toi, as-tu aimé le programme de tes délégués ?
J'aimais une de leurs idées écologiques. Ils veulent réfléchir à la manière de diminuer nos 45 kilos de nourriture jetés par une école tous les jours.
Mais l'émission que l'on va entendre est sur le climat. Est-ce qu'il y a un rapport ?
Bah oui, Octave. Après avoir été jetés, ces déchets ne vont pas n'importe où. Ils vont dans les poubelles, puis à la déchetterie, puis ils partent en fumée. Écoute, tu vas comprendre.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Salut chers auditeurs.
Nous sommes les CM2B de l'école Paul Langevin à Ivry-sur-Seine.
Notre maître s'appelle Aurélien Medville.
On en profite pour le saluer.
Autour de la table cet après-midi, il y a Nolan, c'est moi.
Caïs, c'est moi.
Bonjour, je m'appelle Christella.
Bonjour, je m'appelle Cilia.
Merci chers camarades.
Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute des actualités d'ici et d'ailleurs.
Aujourd'hui, nous allons vous parler
d'un sujet qui touche toute la planète.
Le changement climatique.
Nolan, qu'est-ce que le changement climatique ? Peux-tu l'expliquer à nos auditeurs ?
Chère Christella, le changement climatique, on peut peut-être commencer par dire qu'il s'agit d'un réchauffement.
En effet, cher Lolan, nous assistons depuis plusieurs années à l'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère.
Et ce caïsse dans le monde entier.
Bon, là-dessus on est d'accord, la température augmente. Mais quelles sont les causes de ce réchauffement ?
Les causes, ma chère Christella, c'est la production des déchets, l'émission de gaz par les véhicules que l'on utilise tous les jours.
C'est aussi, cher Lolan, l'industrie et l'élevage intensif qui mène à ce résultat.
En bref, on peut dire que c'est l'activité humaine qui est responsable du réchauffement climatique.
Et ce réchauffement climatique, chère Cilia, il est bien là. En un peu plus de 100 ans, la température de la Terre a augmenté de près d'un degré.
Ça ne semble pas grand-chose, un degré, mais ça entraîne de grands changements.
Ouragans.
Pluies diluviennes.
Sécheresses.
Tous ces phénomènes extrêmes se succèdent sur le globe.
On peut même l'observer localement. À Ivry, par exemple, il a fait très chaud cet été.
Climatisation pour les plus chanceux.
Ventilateur pour les autres.
On a lutté comme on a pu.
Mais y aurait-il pas, mon cher Nolan, d'autres manières de lutter contre ce réchauffement climatique ?
Mais qu'est-ce qu'on peut faire chacun dans son coin ? pour limiter ce changement climatique, voire inverser la tendance. Quelques petites solutions faciles. Aller à l'école à vélo.
À pied ?
Ou en métro.
Favoriser le recyclage, en triant bien ses déchets.
Baisser le chauffage et mettre un pull, voire deux.
Les petites solutions du quotidien que tout le monde peut mettre en place.
Mais est-ce bien suffisant ?
Que faire pour les industries ?
L'élevage intensif.
Le trafic maritime et aérien lié au commerce.
À l'échelle individuelle.
Difficile de lutter contre tout ça.
Qui a le pouvoir ?
Pour cela, il existe un ministère de l'écologie
qui est supposé donc mettre en place des lois pour lutter contre ces réchauffements climatiques.
Le problème, c'est que malgré l'urgence de la situation, cette question ne semble pas être une priorité pour tous ceux qui nous gouvernent.
C'est pour cette raison, notamment, que Nicolas Hulot, ministre de l'écologie du gouvernement Macron, a décidé de démissionner. Et vous, que l'écologie est une priorité absolue.
Oui, pour moi, l'écologie est une priorité parce que si nous continuons comme ça, nous allons droit dans le mur.
Je suis d'accord avec Christella parce qu'il est important de préserver la planète sur laquelle on vit.
Bah oui, si on n'a plus notre planète, on n'a plus rien en fait.
Bon, on me semble qu'on est tous d'accord. L'écologie est une priorité.
Nous avons eu envie de savoir ce que pensent nos camarades de ce sujet central. C'est parti pour notre micro-couloir dans la cour de récréation de l'école Paul Langevin à Ivry-sur-Seine.
Micro-couloir. Micro-couloir.
Bonjour, peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Issa.
En quelle classe es-tu, Issa ?
CM1.
Nous le savons très bien, mais vous, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique ?
Le réchauffement climatique...
Le réchauffement climatique, c'est certains pays qui sont froids et qui... Enfin, c'est le monde quand le soleil tourne, la Terre tourne sur elle-même et donc ça réchauffe chaque endroit du... Enfin, ça réchauffe chaque pays.
Les filles, vous avez déjà entendu parler du réchauffement climatique ?
Non. Oui, c'est quand il y a trop de pollution, du coup, il commence à faire un peu plus chaud sur, dans le climat.
Le réchauffement climatique, c'est le soleil qui se réchauffe et de plus en plus, et c'est que la chaleur, elle monte, et après, ça va faire plus, il y aura moins de terres d'agriculte, moins d'eau, moins de nourriture, vu qu'il y a plus de réchauffement climatique, et c'est un problème.
Lucas, est-ce que tu peux nous donner des solutions pour arrêter le changement climatique ?
Rester dans un endroit frais, ne pas être trop exposé au soleil, au risque
de coups de soleil ?
Non.
Amine, est-ce que tu as une autre idée, toi ?
Oui, boire assez d'eau par jour en été et se mettre à l'ombre, faire des activités aquatiques.
Amine, très bien. Ce sont des solutions pour lutter contre la chaleur quand elle est déjà là. Mais comment éviter que la planète se réchauffe ?
Essayer d'arrêter les usines.
Il y a des voitures qui peuvent arrêter de rouler pour arrêter la pollution.
Il y a plein de gens qui peuvent aller dans des transports en commun pour arrêter la pollution.
Arrêter de jeter des déchets partout, ça va arrêter la pollution et le réchauffement.
Judéa, est-ce que tu penses que tu pollues beaucoup chaque jour, toi ?
Non.
Ah, qu'est-ce qui pollue le plus alors ?
Quand, par exemple, deux personnes vont au même travail et elles prennent des voitures différentes.
Aussi les pétroliers qui vont sur la mer, les usines, les moins à construire. En Chine, il y a beaucoup de pollution à cause des usines. En Inde, ils ont la pollution de Chine qui arrive. Et bientôt, ça va arriver en France
qui va faire le tour et qui va revenir en Chine.
Les bateaux aussi. Quand le bateau il est cassé, parfois il y a du liquide noir qui coule. Et ça fait une grosse flaque noire qui reste. Et ça pollue la mer. Et bientôt, ils vont mettre des voitures dans les airs qui vont polluer les oiseaux.
Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui pollue les mers ?
Les déchets qu'on jette sur la plage, les sachets qu'on laisse dans la mer qui arrivent dans l'océan et les tortues, elles les mangent. C'est pour ça qu'il y a moins d'animaux et qu'ils sont en voie de disparition.
Les poissons absorbent des particules de plastique. Et ensuite, nous, on mange les poissons, donc on mange du plastique.
Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message à nos auditeurs ?
Ne pas polluer. D'arrêter de jeter les déchets par terre.
Nos camarades étaient inspirés. Nous allons rendre l'antenne.
C'était Christella.
Nolan. Cilia.
Caïs. En direct de la cour de récréation de l'école Paul Langevin à Ivry-sur-Seine. Merci de nous avoir écoutés.
Bon, tu as compris, Octave ?
Bah oui, je crois.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Bonjour, nous sommes les CM2 de l'école Rosaline Franklin et nous allons vous présenter les actualités de Radio Cartable pour ce jeudi 1er décembre.
Bonjour, je m'appelle Bilal.
Et moi, Riane.
Kadjatou.
Bonjour, je m'appelle Ndiaye.
Voici le titre.
Nous sommes maintenant 8 milliards d'habitants dans le monde.
L'ONU a annoncé ce chiffre, nous expliquerons la mission de l'ONU.
Et enfin, nous parlerons d'Irène Nagl. C'est une scientifique ivrienne.
Actualité internationale.
La population de tous les pays du monde augmente beaucoup depuis 1950.
Mardi 15 novembre 2022, l'ONU a estimé que la population de la planète atteint 8 milliards d'habitants d'habitantes.
Est-ce que c'est sûr ?
Non, c'est une estimation. Ça veut dire que ce n'est pas forcément tout à fait cela. Ce n'est pas exactement ce chiffre, mais c'est environ 8 milliards.
En 2080, nous serons peut-être 10 milliards 400 millions d'habitants d'habitantes.
Pourquoi la population augmente ?
Parce que les nouveau-nés sont plus nombreuses que les vieilles personnes qui meurent.
Quel est le pays le plus peuplé au monde ?
Aujourd'hui, c'est la Chine. Mais l'an prochain, l'Inde va devenir le pays le plus peuplé avec 1,4 milliard d'habitants d'habitantes.
Annoncer ce chiffre permet d'avertir les gens.
Tout le monde va être au courant que l'on est de plus en plus nombreux sur la Terre. Et peut-être qu'on pourra faire attention à baisser chacun notre consommation de viande, par exemple.
L'ONU, ça veut dire l'Organisation des Nations Unies.
Elle a été créée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale. Presque tous les pays du monde appartiennent à l'ONU.
L'ONU se réunit à New York aux États-Unis.
L'ONU sert à maintenir la paix dans le monde. Ses moyens d'action, ce sont les casques bleus. Les casques bleus sont des soldats de la paix. Ils ont le rôle de protéger les habitants et habitantes.
L'ONU essaye d'arrêter les conflits entre les pays.
Par exemple, elle pourrait arrêter le conflit entre la Russie, l'Ukraine et la Russie.
Oui, mais regarde, si on cherche à faire la paix dans une bagarre à la récréation, c'est pas facile.
On peut se prendre des coups.
Et si on rentre dans des histoires en cherchant qui a fait quoi, on peut redéclencher une bagarre ou même empirer la situation.
Donc l'ONU a beaucoup de travail pour défendre la paix.
Dans le journal Ivry Ma Ville, j'ai été intéressée par le portrait d'une scientifique.
Elle s'appelle Irène Nagle et elle est ivrienne.
Elle défend la science éthique.
Ça veut dire quoi une scientifique éthique ?
C'est une scientifique qui fait des choses justes.
Déjà, l'égalité, les femmes ne représentent que 28% des chercheurs, chercheuses en France, dans le monde. Les sciences ne sont pas réservées aux garçons.
Irène Nagle, elle a appris à faire de la science et elle est aujourd'hui biophysicienne.
À 27 ans, elle a déjà reçu un prix. Elle cherchait à recréer nos muscles en laboratoire.
Ça sert à quoi, ça ?
Ça sert à mieux comprendre les muscles sans tuer les animaux et après cela peut aider à soigner les maladies musculaires.
Elle a un exemple pour nous les filles pour montrer que les filles peuvent faire tous les métiers.
Les actualités d'ici et d'ailleurs, c'est fini pour aujourd'hui.
La source de nos informations était Un jour une actu pour la population mondiale et l'explication de l'ONU.
Et nous l'avons dit, le portrait d'Irène Nagle se trouve dans le numéro de novembre d'Ivry Ma Ville.
Au revoir.
Actualité
d'ici et d'ailleurs.
Maintenant, un sujet à écouter à partir du CE2, les informations pour les petites oreilles.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Je m'appelle Camélia, j'ai 10 ans et je suis en CM2 et j'adore la gym.
Bonjour, je m'appelle Rayed et j'adore le foot.
Bonjour, je m'appelle Juba et j'aime aussi le foot.
Bonjour, je m'appelle Aya et j'aime beaucoup les chats.
Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une actualité, l'armée française au Mali.
En effet, Emmanuel Macron a annoncé le retrait des soldats français.
Est-ce que le retrait, c'est comme la retraite, on travaillait dans un bureau et ensuite on rentre chez soi, on ne fait plus ce travail ?
Oui, tu as raison, c'est le même mot. Et le retrait des soldats, ça veut dire qu'il n'y a plus de soldats français sur le territoire du Mali. Ils sont sortis du pays.
En 2012, la guerre avait commencé au Mali entre l'armée malienne et les djihadistes. Les djihadistes, cela veut dire des groupes armés qui n'appartiennent à aucun pays. En 2013, l'armée française a décidé d'envoyer des soldats pour aider l'armée malienne.
Donc, la guerre au Mali, cela fait 10 ans qu'elle existe ?
Oui, mais à la fin de l'année dernière, en 2021, le retrait de l'armée française a commencé. Le 10 novembre 2022, le retrait a été annoncé officiellement par Emmanuel Macron. Il est définitif.
Au début, les Maliens étaient contents que les soldats français viennent les aider. Mais depuis quelques années, ils ont voulu les mettre dehors.
En effet, les personnes qui commandent le pays ont changé. Ils ne sont plus alliés de la France. Être allié, c'est être ami.
Alors, est-ce que c'est la fin de la guerre au Mali ?
Non, car les djihadistes sont toujours là, mais maintenant, l'armée malienne a trouvé d'autres aides pour se battre contre les djihadistes, en particulier les Russes.
C'est la fin de notre journal. Au revoir et merci de l'avoir écouté.
Nos informations viennent du journal en français facile sur Radio France Internationale.
Au revoir !
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Salut à toi, oh ma sœur, salut à toi, je t'ai dans le cœur. Salut à toi, l'Africaine, salut à toi, l'Américaine. Salut à toi, fleur de Chine, salut à toi, au fond des mines. Salut à toi, fille d'Angola, salut à toi, Peluana. Salut à toi, la Guinéenne, salut à toi, la Vietnamienne. Salut à toi, la Guyanaise, salut à toi, la Togolaise. Salut à toi, la femme gitane, salut à toi, la fille afghane. Salut à toi, sœur de misère, salut à toi, qui est en colère. Salut à toi, la Polaque, salut à toi, femme d'Irak. Salut à toi, l'Irlandaise, salut à toi, la Rwandaise. Salut à toi, qui est enfermée, salut à toi, la liberté. Salut à toi, qui est en prison, salut à toi, et mort au con. Salut à toi, la Laïcienne, salut à toi, la Tahitienne. Salut à toi, fille d'Algérie, salut à toi, je te chéris. Salut à toi, qui est damnée, salut à toi, la condamnée. Salut à toi, qui meurs en silence, je te salue depuis la France. Salut à toi la sans-papier, salut à toi l'expulsé. Salut à toi la fille des rues, salut à toi qui vend ton cul. Salut à toi qui tend la main, salut à toi qui rit d'rien. Salut à toi qui vit et dort sur un carton jusqu'à l'aurore. Salut à toi l'immigré, salut à toi déraciné. Salut à toi la réfugiée, salut à toi qui est déchaîné. Salut à toi 20 fois violé, salut à toi qui est violenté. Salut à toi petite sœur, salut à toi je t'ai dans le cœur.
Ah, Tchaïkovski, ça fait vous.
Vous êtes bien sûr Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Et vous venez d'écouter le titre Salut à toi, qui vient de l'album Pizza, un album de La Rouille. Merci à Max de La Fumée dans le Poste qui m'a fait parvenir ce CD.
Voyager, ça fait rêver un peu aussi. Mais redescendons sur Terre avec des sujets bien ancrés dans le réel. C'est l'heure des actualités d'ici et d'ailleurs qui vous sont proposées cette semaine par les CM2 de l'école Paul Langevin. Gilets jaunes, manifestation pour le climat, fusillade en Nouvelle-Zélande. Mais aussi tournoi destination et Dragon Ball Super Broly sont au programme du jour. Ne ratez donc pas cette séquence. C'est parti!
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Bienvenue à tous nos chers auditeurs.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter les actualités d'ici et d'ailleurs.
Mais Flavien, nos auditeurs ont envie peut-être de savoir qui est ce nous.
Évidemment, chère Diana. J'y viens. Nous sommes les CM2A de l'école Paul Langevin. Notre maître est Maxime Moignet. Comme vous le savez déjà, chers auditeurs, je m'appelle Flavien et ma passion dans la vie, c'est dessiner.
Merci, cher Flavien. Moi, je m'appelle Manon et ma passion dans la vie, c'est l'équitation.
Super Manon, en plus ça rime. Moi, chers auditeurs, c'est Diana. Et plus tard, figurez-vous que je voudrais être hôtesse de l'air.
Waouh, super Diana. Chers auditeurs, c'est Naël au micro.
Moi, mon truc, c'est les maths. Et plus tard, je voudrais être mathématicien.
Oh là là, mathématicien! Moi, je n'aime pas trop les maths. Mais tous les goûts sont dans la nature. Bon courage, Naël.
Moi, c'est Bénédicte. Ma passion, c'est l'athlétisme. Et plus tard, je voudrais être kiné.
Très bien, Bénédicte, c'est précis tout ça.
Bon, fini les blabla. On va maintenant passer aux choses sérieuses.
C'est-à-dire...
les actualités d'ici et d'ailleurs.
Commençons tout de suite avec les actualités nationales. Pour commencer, la colère des Gilets jaunes. Le 17 novembre 2018, Les gilets jaunes ont commencé à manifester. Depuis de nombreuses semaines, les gilets jaunes organisent des manifestations. Ils campent sur les ronds-points, barrent les routes et manifestent chaque samedi. Le mouvement des gilets jaunes est un mouvement social. Depuis le début des manifestations, ils demandent au gouvernement davantage de justice sociale. Beaucoup d'entre eux ne parviennent pas à boucler la fin du mois et ont des difficultés pour élever correctement leurs enfants. Les fins de mois sont difficiles, alors que beaucoup d'entre eux ont un travail. Ils considèrent que les efforts consentis par le gouvernement ne sont pas suffisants. Et ils continuent donc de manifester chaque samedi. La situation est de plus en plus tendue. Et l'on observe des violences du côté des policiers comme du côté des gilets jaunes. Samedi dernier, la tension était à son comble aux Champs-Élysées. Et nous pouvons redouter que la tension ne retombe pas d'ici samedi. Nous vous tiendrons informés des nouveaux développements de ce conflit social sur Radio Cartable.
Deuxième sujet phare de l'actualité nationale, les manifestations des lycéens. La préoccupation de ces lycéens, c'est le climat et plus précisément le réchauffement climatique. Ils ont décidé de manifester pour interpeller le gouvernement. Selon eux et tous les signataires de la pétition « L'affaire du siècle », le gouvernement ne réagit pas à la hauteur de cet enjeu majeur pour le pays, la planète et toute sa jeunesse. Ces lycéens manifestent pour leur avenir. La première manifestation a eu lieu le vendredi 15 mars 2019. Mais nous savons déjà qu'il y en a d'autres qui sont prévues. Les manifestants pensent que si le gouvernement ne fait rien, notre vie sur Terre court un grand danger.
Affaire du siècle à suivre.
Merci à vous, Bénédicte Diana. Nous pensons maintenant aux actualités internationales.
Nouvelle-Zélande. Vendredi 15 mars 2019, un terrible attentat a touché ce pays, et plus précisément la ville de Christchurch. Les croyants de la mosquée de la ville étaient rassemblés pour la prière du matin. Quand le terroriste Brenton Tarrant a surgi armé d'un fusil et a commencé son massacre. Bilan, 50 victimes, parmi lesquelles figurent des enfants. Un massacre revendiqué par ce terroriste qui avait publié un manifeste et qui a de plus filmé la scène grâce à une petite caméra. Ce qui est très choquant, c'est que durant 17 minutes, cette tuerie était visible en direct sur Facebook. Il a fallu 17 minutes au réseau social pour supprimer le compte de l'assaillant. Inculpé, il sera jugé le 5 avril prochain. Nous avons été très touchés par cette nouvelle, parce qu'elle nous rappelle le terrible attentat du 13 novembre 2015. Nous n'oublierons pas les victimes. Les étudiants de Nouvelle-Zélande ont fait le haka, une danse chantée célèbre, pour rendre hommage aux 50 victimes.
Un grand merci, cher Manon. Sans transition, nous passons à notre page sport.
Je vais vous parler d'un tournoi de rugby se nommant les Six Nations. Une nation est un pays. Et comme son nom l'indique, six pays s'affrontent. La France, le pays de Galles, l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre et l'Italie. Samedi dernier, le pays de Galles a remporté le tournoi des Six Nations. En effet, les Gallois ont gagné tous leurs matchs. Cela signifie qu'ils ont réussi l'exploit de réussir le Grand Chelem. Ils ont été accueillis comme de véritables héros à Cardiff le lundi 18 mars 2019. En ce qui concerne l'équipe de France, elle a fini quatrième du classement.
Un grand merci, cher Flavien. Un peu de culture maintenant, et plus précisément de cinéma. Je vais vous présenter un film d'animation japonais, Dragon Ball Super Broly, qui a été créé par le célèbre réalisateur Tatsuya Nagamin. Il a remporté un énorme succès dans le monde entier, deux fois plus que Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer. Voici un petit résumé de Dragon Ball Super Broly. Sangoku s'entraîne encore
pour être le plus fort et pour battre ses prochains ennemis. Cela tombe bien, car le vaisseau de Freezer, un alien hyper violent, blanc et violet, arrive avec un Saiyan nommé Broly. La surprise est immense pour Son Goku et ses amis, car les Saiyans étaient censés être anéantis. Venez voir le combat exceptionnel de Broly contre les Saiyans.
Est-ce que Broly va être transformé en brocoli ?
Vont-ils se battre en octogone ? Pour le savoir, allez voir le film, il est sorti en salle en France le 13 mars dernier.
Voilà, nous avons fait un tour complet de l'actualité.
Enfin, presque complet.
En tout cas, nous espérons que vous avez appris plein de choses.
Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro
des actualités
d'ici
et d'ailleurs.
Très bonne semaine à tous.
Et à bientôt.
En classe, et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous, maman, maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire, entendre tes refrains charmants, maman, 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 maman,
papa. Papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, 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 papa.
Maman, papa, en faisant cette chanson, maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Toujours maman, papa, de vous avoir fait pleurer aux temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa.
Vous êtes bien sur Radio Libertin 89.4, vous allez écouter l'émission Bibliomanie. Je n'ai pas écouté le générique, mais il va peut-être venir, à moins que... voilà. Donc on va passer le générique, et après l'émission. Bonjour à tous, vous avez écouté l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec la technique Flo des Cailloux. Nous avons la joie pour cette première émission de l'année, et l'honneur, il faut dire, de recevoir Pierre Assouline pour un livre. C'est un, je ne vais pas dire un beau livre, parce que les beaux livres c'est une collection, c'est un bel objet, c'est un livre-objet, et pas que, comment écrire, avec ce sous-titre, tous les conseils techniques et, secrets des meilleurs écrivains français et étrangers. C'est paru aux éditions Albin Michel, et c'est un livre que vous ne pouvez pas louper en librairie, puisqu'il y a tout un générique avec des écrivains que nous aimons tous, comme Paul Auster, Leclésio, Marguerite Yourcenar, Simenon, bien sûr, Pierre Assouline, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est vrai, moi, je vous suis depuis longtemps, je vous lis. J'ai lu avec grande attention votre biographie sur Simenon, j'ai lu aussi certains de vos romans. Et là, j'ai eu l'impression, Pierre Assouline, comment écrire ce titre. D'abord, généralement, on dit « Pourquoi écrivez-vous » ou alors on pourrait dire « Comment écrire dans une telle société, dans un monde surinformé ?» Ce « Comment écrire », c'est pas « Comment devenir écrivain ». Ça, c'est un titre qui a été, je pense, mûrement réfléchi.
Pour moi, c'était spontané, naturel. Et quand je dis à l'éditeur, ça sera ça et pas autrement. Et il m'a dit « Bon, d'accord, c'est comme tu le sens ». Et j'ai précisé tout de suite « Attention, il n'y a pas de point d'interrogation ». Parce que... un point d'interrogation, c'est poser une question, se demander quelle peut être la réponse, etc. Alors que là, c'est déjà une réponse. Comment écrire, c'est déjà une réponse.
Et c'est pas comment de en vous lisant, il y a pas de recette de cuisine.
Non,
du tout,
c'est, hein. Si vous me demandez qu'est-ce que ça n'est pas, je vous répondrai, ça n'est pas un livre de recettes. Parce que dès la première phrase, je dis bien, ce livre ne vous rendra pas écrivain.
Il vous rendra écrivain ?
On ne sait pas trop ce que c'est, écrivain.
Oui,
hein. Mais il y a des écoles d'écriture, ça s'enseigne, il y a des ateliers d'écriture, notamment aux États-Unis, mais en France on y vient. Et moi, je l'enseigne, l'écriture, depuis 25 ans.
À Sciences Po.
À Sciences Po. Ouais. Donc, je crois beaucoup à la transmission de quelque chose. Qui ne sont pas des recettes, qui sont parfois des techniques, des conseils. C'est un accompagnement. Je crois que quelqu'un qui veut écrire, et qui sent quelque chose, et qui est décidé à écrire, notamment de la fiction, s'il est accompagné, on peut lui éviter de perdre du temps. Inutilement, en se trompant de différentes choses et en évitant des pièges.
Ah, moi, j'ai pensé en vous lisant, c'est un livre, il y a plusieurs livres hein, quand même, j'ai pensé à ce mot un peu démodé d'anthologie et même de morceaux choisis, parce que c'est un livre aussi, Pierre Assouline, qui peut être un livre de chevet. Il y a des... D'abord, il y a un soin qui a été apporté à la maquette.
Ah, oui. Je suis très content de la façon dont ils ont fait ça chez Albin Michel, parce que c'est le directeur artistique qui s'en est emparé. Et il a fait un très bel objet, vous l'avez dit. Et moi, j'ai juste dit tout ce que je voulais. C'est-à-dire un texte courant qui raconte une histoire, quand même. Toute la façon de concevoir un livre et de l'écrire, etc. Le plan, le développement, les personnages, les paysages, les descriptions, les dialogues, tout ça. Et puis, je voulais que ce soit très illustré.
Oui.
Donc je lui ai dit ce que je voulais comme illustration. Et puis je voulais aussi qu'il y ait beaucoup de citations sur les pages comme ça. Alors tout ça fait une sorte de kaléidoscope, mais très organisé. Et je reconnais qu'il a fait un travail formidable.
Avec des jeux de typographie.
La typographie est aussi très originale. C'est un objet, voilà. Moi, j'appelle ça un olni, un objet littéraire non identifié. Ça ressemble à rien de ce qu'on a déjà fait. Déjà, le principe même, en France, c'est assez rare. En tout cas, je n'en ai pas vu d'autres comme celui-ci. Et puis, la façon, la manière, ça change tout.
Et avec la couleur de l'encre, j'allais dire, à l'ancienne, c'est-à-dire c'est
C'est pas tout à fait du sépia.
C'est
un peu c'est un peu doré, mais doré marron, un peu beige.
Du brou de noix, parce que les encres anciennes, c'était au brou de noix, mais là on revient.
Il y a un peu de ça.
Il y a un peu. Et ça se lit très bien parce que c'est.